Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, 2000 migrants sont morts cette année en traversant la Méditerranée, dénonce l'OIM. 84% des services sanitaires de l'OMS suspendus en Irak, faute de fonds. L'ONU condamne les attaques meurtrières pour les civils au Yémen. En RDC, le représentant spécial rencontre la CENI en vue des prochaines élections. En dossier, nous reviendrons sur la situation au Burundi. Enfin, d'envoi de femmes, coup de projecteur sur la traite des personnes. Le cap des 2000 décès de migrants cette année en Méditerranée a été franchi. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce triste record a été atteint ce week-end à la suite des 19 décès répertoriés dans le canal de Sicile. Dans un des cas, 14 corps ramenés dans le port sicilien de Messine. Les migrants sont morts d'épuisement et de soif après que l'eau potable ait été utilisée pour refroidir le moteur du bateau, selon les témoignages recueillis par l'OIM. Alpha Diallo.
Ce dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations confirme que la Méditerranée est devenue un immense cimetière marin. Un drame humain sans précédent, avec plus de 2000 migrants morts depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'année dernière, à la même période, 1607 migrants avaient péri dans ces eaux pour un total de 3279 morts à la fin de l'année. La majorité de ces migrants sont morts dans le canal de Sicile, qui sépare l'île italienne de la Tunisie, où les tragédies se multiplient en raison des embarcations de fortune utilisées par les passeurs et les trafiquants. Au total, il y a eu 1930 décès sur cette route, contre une soixantaine sur la route de Grèce, généralement depuis la Turquie. Dans ces conditions, le directeur général de l'OIM, William Swing, juge inacceptable qu'au XXIe siècle, des gens qui fuient des conflits, des persécutions et la misère soient obligés d'endurer des expériences si terribles dans leur pays pour ensuite mourir aux portes de l'Europe. Par ailleurs, l'OIM indique également que près de 188 000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe, principalement en Grèce et en Italie, via la Méditerranée. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
En Irak, l'Organisation mondiale de la santé a dû suspendre 84% de ses programmes sanitaires de première ligne en raison d'un manque de fonds. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Ces suspensions signifient un manque d'accès aux soins à des millions de réfugiés, de déplacés et de communautés. Ces programmes étaient essentiellement centrés sur les soins d'urgence, les soins en traumatologie ou encore les campagnes de vaccination, entre autres. Sur les 60,9 millions de dollars requis, celui pour ont été reçus, soit 5,1 millions de dollars. Les détails avec Tariq Yassarevitch, porte-parole de l'OMS.
Ces dernières semaines, plus de 184 programmes de santé ont dû être suspendus en Irak, faute des moyens et de financement. Il s'agit donc de 84% des programmes en matière de la santé qui ont été mis en place par les partenaires humanitaires, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi d'autres partenaires qui travaillent dans le domaine de la santé. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu prévoir. On a à plusieurs reprises parlé de ce scénario qui, voilà, malheureusement, est devenu une réalité et qui laisse plus de 3 millions de personnes sans accès à des soins de santé et surtout vraiment la population qui en a besoin le plus. Donc, là où il y a des camps de déplacés dans les régions du nord à distance du pays où on a eu les conflits qui a déplacé les gens et qui a mis la population dans une position très vulnérable.
L'envoyé spécial pour le Yémen poursuit ses efforts pour obtenir une reprise du processus politique. En visite au Caire, Ismail Oul Sheikh Ahmed a rencontré Nabil El Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe, ainsi que le secrétaire général du Congrès général du peuple, CGP, qui appuie l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh. De son côté, le commissariat aux droits de l'homme s'inquiète du fait que des zones résidentielles au Yémen ont été le théâtre d'attaques particulièrement meurtrières. Le 19 juillet, 95 civils, dont 29 enfants, ont été tués et 198 blessés à Aden, dans une zone résidentielle. Et le 24 juillet, 73 civils auraient été tués dans la ville de Taziz suite à des frappes. Cécile Pouilly est porte-parole du Haut Commissariat.
C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la quantité de morts civiles dans ce conflit et se questionner si les parties en présence véritablement respectent les principes de distinction et de proportionnalité lorsqu'ils conduisent leur opération militaire telle que prescrit par le droit international humanitaire. Alors, les informations que nous avons reçues en effet sont que cette attaque du 19 juillet qui a fait 95 morts parmi les civils aurait été conduite par ces comités populaires affiliés aux Houthis et qui ont aussi abouti à la destruction, en tout cas en partie, de plus de 14 maisons de civils.
En République démocratique du Congo, le chef de la MONUSCO a fait part lundi des attentes du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport au processus électoral dans le pays, au bureau de la Commission électorale nationale indépendante lors d'une rencontre à Kinshasa. Des attentes qui portent sur le respect du calendrier, le financement des élections et l'enrôlement de nouveaux majeurs. Selon Martin Kobler, tout doit se faire étape par étape pour la réussite des élections de novembre 2016.
Le Conseil de sécurité a fait très très clair qu'il attend de la MONUSCO, c'est ce que nous avons discuté, que le calendrier électoral soit respecté, la constitution soit respectée, mais aussi le calendrier électoral doit mener aux élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016. La chose la plus importante maintenant, c'est d'avoir des décisions politiques, puis d'avoir un calendrier électoral, et puis aussi le financement et le décaissement de l'argent, puis la communauté internationale aussi a son obligation de contribuer ici aux élections crédibles. La question de l'enrôlement de nouveaux majeurs est aussi sur la table, ça dure son temps. Il faut maintenant aller étape par étape. Je suis très optimiste.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec la situation qui se détériore au Burundi. Le secrétaire général de l'ONU a condamné fermement la tentative d'assassinat de Pierre Claver Mbonimpa, un défenseur des droits humains burundais respecté, blessé par balle par des inconnus à Bujumbura lundi. Ban Ki-moon a appelé à une enquête rapide et transparente afin de traduire les auteurs de ce crime en justice. Pour lui, cet incident qui intervient un jour seulement après l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana et la L'arrêt de deux journalistes a une motivation politique. Le chef de l'ONU appelle à la reprise d'un véritable dialogue politique inclusif, des propos et des préoccupations que partage le Bureau des droits de l'homme, comme l'explique son porte-parole Cécile Pouy au micro d'Alpha Diallo.
Monsieur Mbonimpa est un défenseur des droits de l'homme très réputé. Et hier, il a fait l'objet d'une attaque. En fait, deux personnes à bord d'une moto ont tiré sur lui à quatre reprises, y compris dans le cou, à Bujumbura, alors qu'il rentrait en voiture dans sa maison. Bien sûr, il n'est pas mort, mais il est dans une condition qui reste difficile. Et nous condamnons cet acte odieux.
Au-delà de cette attaque contre Pierre Claver Mbonimpa, il y a aussi cette attaque contre le journaliste correspondant de RFI de l'AFP qui a été, selon votre communiqué, brutalisé par les services de renseignement burundais.
Oui, en effet, c'était le 2 août dernier, donc une arrestation brutale et des mauvais traitements. Donc en fait, il était à l'endroit où le général Nshimirimana a été assassiné en train de prendre des photos lorsque des membres du service national de renseignement l'ont brutalement arrêté et emmené à leur siège. Et sur place, il aurait été soumis à des tortures et nous a expliqué qu'on lui avait dit qu'il était un ennemi journaliste. Évidemment, il est en train de recevoir des soins médicaux et bien sûr il est psychologiquement très atteint par les abus dont il a souffert.
Au-delà de cette attaque contre le journaliste Edras Ndikou Kamana, est-ce que quelque part c'est pas toute la presse indépendante qui est menacée au Burundi?
Alors on voit bien qu'il y a vraiment un climat de crainte qui règne à Bujumbura et au Burundi en général et qui vise aussi les journalistes. Donc on voit bien que les gens qui font disséminer l'information sont de plus en plus soumis à des pressions et parfois à des violences, raison pour lesquelles nous avons demandé aux autorités du Burundi d'enquêter sur ces incidents qui sont très très sérieux. Il faut que justice soit faite parce que si l'impunité continue, elle ne fait qu'encourager les responsables de ces violences.
Les gens proches du pouvoir aussi ne sont pas épargnés par cette violence. Comment réagissez-vous par rapport à cet assassinat contre le général Nshimirimana?
Mais nous condamnons son assassinat. La voie de la violence n'est pas celle qu'il faut choisir pour le Burundi au risque d'une escalade qui fera encore davantage de morts. Et donc nous appelons toutes les parties en présence à faire preuve de retenue et nous condamnons tous les actes de violence.
Le haut commissaire a fait état de nombreuses arrestations arbitraires et des cas de torture. Qu'en est-il exactement?
Eh bien, depuis avril, il y a eu plus de 600 personnes qui ont été arrêtées et qui restent en détention sans que des motifs, des chefs d'accusation aient été formulés à leur encontre. Et notre personnel sur place continue à visiter de manière régulière différents lieux de détention et à documenter plus de 40 cas de torture et de mauvais traitements. Et donc, il faut absolument que les autorités agissent. Certaines des personnes qui sont arrêtées et vues par notre personnel dans les lieux de détention est ensuite relâchées. Mais certaines personnes restent, elles, en détention sans savoir ce qu'on leur reproche et sans qu'elles soient présentées à un juge, ce qui n'est pas acceptable.
Est-ce que, quelque part, vous redoutez une escalade de la violence ou bien vous redoutez redouter carrément une guerre civile malgré la tenue du scrutin présidentiel?
Alors, nous craignons clairement une escalade de violence. Pour l'instant, on n'a pas deux groupes qui s'opposent militairement dans les rues de Bujumbura ou du Burundi. Donc, il faut manier avec précaution le langage. Mais nous craignons bien sûr une escalade de la violence. Cet assassinat qui a eu lieu le 2, suivi par ses arrestations, par ses attaques contre ce journaliste et ce défenseur des droits de l'homme, tout ça, ce sont des indications qu'il y a un véritable regain de tension qui peut évidemment aboutir à une escalade qui peut mener bien au-delà. Et on ne veut pas voir le Burundi prendre ce chemin parce qu'il y a tellement de vie en jeu.
Voix de femme. Après plus d'une décennie d'efforts visant à combattre la traite des personnes, les résultats sont encore modestes. 20 millions de personnes à travers le monde en sont encore victimes. La grande majorité ne sont pas reconnues comme telles et n'ont pas recours à la justice ni à l'assistance. Pour en savoir plus sur l'envergure de la traite et la réponse à apporter, Florence Westergaard a joint la rapporteure spéciale de l'ONU aux droits de l'homme, Maria Grazia Giammarinaro.
La traite a été identifiée partout. Il n'y a pas de pays aujourd'hui qui ne sont pas affectés par ces phénomènes. Et ce n'est pas vraiment une question de pays, mais de régions, de zones. Les trafiquants amènent les gens des zones pauvres aux régions plus riches, où ils peuvent l'exploiter dans des secteurs comme l'agriculture, la construction, comme l'industrie touristique. Et je crois que le vrai problème est qu'on doit changer la perception de la traite. Jusqu'à présent, la traite a été considérée quelque chose dont on doit s'occuper avec des mesures de police. Ce n'est pas uniquement comme ça. En fait, la traite, ça, c'est de l'exploitation. Donc, c'est un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème qui est lié aux tendances de l'économie globale. Et donc, par exemple, les ministères de l'économie doivent s'occuper de ça et doivent considérer ça une priorité. Et des secteurs privés doivent s'occuper de ça. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont adopté des codes de conduite, qui ont des règles internes pour prévenir l'exploitation. Mais, encore une fois, c'est un problème de mise en œuvre. Parce que quel est le mécanisme de suivi? Quel est le mécanisme de sanction pour les sous-contractants qui, dans un pays tiers, dans un pays lointain, utilisent le travail forcé? Et donc, il faut que la société, dans son entièreté, les secteurs publics, les secteurs privés, soient beaucoup plus engagés dans ce domaine.
Et donc, vous êtes spécialiste de la traite des femmes et des enfants. Donc, quelle est justement la situation des femmes et des enfants dans le monde?
La situation est terrible parce que les femmes et les enfants sont encore la majorité des victimes de la traite. Et les femmes et les filles sont exploitées dans la prostitution forcée et dans l'industrie du sexe. Et les enfants, en général, sont un quart des victimes de la traite globalement. Ils sont exploités partout dans le travail, ils sont forcés à commettre des crimes, parfois les garçons sont exploités sexuellement. Les filles sont aussi exploitées dans l'esclavage domestique, ils sont parfois confiés à des parents plus riches pour avoir un futur, pour avoir une éducation, et en fait elles sont mises à travailler dans les maisons sans la possibilité d'aller à l'école, sans la possibilité d'avoir une éducation. Et il y a eu des études qui montrent que les situations d'exploitation sexuelle et d'exploitation dans les maisons sont parfois comparables à la torture. Et c'est une situation de souffrance énorme. Et donc là encore, il y a beaucoup de travail à faire et toute la société devrait se sentir engagée pour avoir des résultats plus significatif. En fait, en ce moment, il n'y a pas de mesures efficaces. Si nous faisons la comparaison entre l'action contre la traite et l'action, par exemple, contre les drogues, nous voyons que la traite est vraiment, vraiment un crime qui peut laisser les trafiquants relativement tranquilles. Malheureusement, ça, c'est encore la situation.
Et c'est avec Maria Grazia Giammarinaro que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.